Vous êtes sur RTL. En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde dans RTL Soir, saison 2, épisode 32. Voici Marie Mollet, Stéphane Carpentier, Brice Dugénie, Laurent Tessier, Greg Caradoni et Cyprien Sini.
Olé !
Et tout le monde en studio et en direct.
Ouais, c'est beau.
C'est rare. Ça fait un petit moment. Hein.
Ouais,
on va pas tous se retrouver. C'est
on est content de retrouver Brice qui n'a pas le goût et l'odorat, mais nous on l'a retrouvé.
Il n'a pas l'air de bonne humeur.
Si, je suis très bonne humeur. C'est vrai que j'ai toujours pas de goût et d'odorat. Mais tout va bien, je vous remercie.
Ça va s'arranger. Le compte Twitter pour commenter l'émission, bien sûr, vous réagissez évidemment sur la page Facebook. On défait le monde, saison 2. C'est parti pour le sommaire.
Ce soir, grand voyage au centre de la Terre. Alors que le monde a la tête tournée vers la planète Mars, que Thomas Pesquet s'envole pour l'ISS la semaine prochaine, eh ben, il y a quoi sous nos pieds? Enquête fascinante à suivre. Chouette, on connaît la date des régionales et des départementales. Mais en fait, à quoi ça sert, les régions et les départements? On allumera la lumière sur le sujet, ça vous donnera peut-être envie de voter, qui sait. Comme tous les vendredis, vous découvrirez l'incontournable loser de la semaine. Et ce soir, Marie... Là, c'est assez rare pour être souligné, un grand perdant qui s'assume.
Oui, la star du tennis français, Benoît Paire, le moral au plus bas, mais toujours le verbe haut.
Billet retour quand on revient sur une info qui a fait la une et dont on ne parle plus. Et ce soir, un pays qui a totalement disparu de l'actualité, Brice, l'Ukraine.
Oui, nous retournons sur la ligne de front dans l'est du pays. Souvenez-vous, le Donbass.
D'ici 20h, elles font le sel de vos vendredis soirs, vos trois infos pour briller au dîner. Dans Marche ou Rêve, encore plus fort que Top Chef, les championnats du monde de l'œuf maillot. Et évidemment...
Ça va faire plaisir aux gens de Top Chef.
Ah oui, il est très fort l'œuf maillot. Et évidemment, une énorme enceinte musicale connectée à gagner pour vous. Mais alors attention, hein, c'est pas pour faire les soirées clandestines, hein, non. C'est pour le monde de demain. On défait le monde, saison 2, épisode 32.
Allez hop, on y va, en route pour l'aventure.
La semaine dernière, vous étiez déçus. Cette semaine, vous serez pas déçus.
Ouais,
bon. Mais on ne sait pas quoi dire de temps.
C'est bon, là,
non ?
C'est bon ?
C'est bon ?
Vous allez être déçus.
Dis-moi,
la semaine.
Ça
le finit. Bon, c'est bon.
On arrête, vous en avez marre ?
Ouais.
Bon. Ok, on arrête là.
D'accord, alors on arrête là.
On défait le monde dans RTL Soir.
Eh ben voilà, c'est l'heure de se quitter, du coup, parce que le générique était un peu long.
Allez, 19h17, il surfe tous les matins de la semaine, rien que pour vous, à 7h moins le quart, et juste avant 8h, aux côtés de Yves Calvi, c'est Cyprien Sini. Surfeur de la semaine, sont les temps forts, sonores des derniers jours, Cyprien.
Eh bien, sans plus attendre, le naufrage de la semaine. Jordan Bardella, candidat au Rassemblement National au Régional en Ile-de-France, il présente sa mesure phare sur BFM, deux policiers dans chaque gare d'Ile-de-France, alors pourquoi pas. Et là, interrogé sur le sujet, bah c'est le remake du Titanic, écoutez.
Combien y a-t-il de gares en Ile-de-France? Il doit y en avoir plus de 300, je crois.
Non, on est à plus de 800.
Combien est-ce que c'est budgété?
Mais je pense que ça a peu d'importance. Vous voyez, le coût de la mesure, je pense que ça n'intéresse personne. Je suis pas candidat au grand oral de l'ENA.
Ouais, combien ça va coûter? On sait pas, c'est pas grave. De toute façon, ça intéresse personne. Et ça, le « ça intéresse personne » au RN, eh ben, c'est un peu la nouvelle technique. Hein. Souvenez-vous, Marine Le Pen en difficulté avec les chiffres du Covid, elle répondait quoi quand on lui a posé la question il y a un mois?
Moi, je vais pas me battre avec vous, avec les graphiques, les chiffres, les courbes, etc. Je pense que les gens qui nous écoutent, ils ont pas envie de savoir ça.
Mais oui, les vrais chiffres, les courbes, c'est comme les budgets. Ça intéresse personne, on s'en fout au RN de toute façon cette année.
On est les fous.
Mais ouais, les chiffres, les faits, tout ça, c'est pas le problème, on s'en fout. Il y a la présidentielle qui arrive. Mais les amis, nous entrons donc dans l'ère de l'univers parallèle. Bon, en même temps, on n'a pas attendu le Rassemblement National pour se retrouver dans un monde alternatif. Arnaud Montebourg, cette semaine, dans un débat sur le nucléaire, écoutez bien.
Pour relativiser la question du risque, Tchernobyl, zéro mort.
Attends, il a dit quoi là?
Pour relativiser la question du risque, Tchernobyl, zéro mort.
Ah ouais, Tchernobyl, zéro mort, nickel. Bon alors déjà, à l'époque de l'URSS, hein, pas vraiment réputé pour jouer la transparence, on annonçait...
Les faux procès, ça commence un peu à me chauffer la bile, mais je resterai zen. On trouve quand même qu'un yacht club à Vincennes... Mmh. À part...
Alors là, nous avons un gros problème de son. Ça, c'était le son d'Europe Écologie Vert ce matin, dans le surf de ce matin. Est-ce qu'on a retrouvé, Grégory Caradoni, le son de Gorbatchev qui annonce le nombre de morts à Tchernobyl?
Mais bien sûr, nous l'avons retrouvé, le voici.
Formidable.
M. Gorbatchev a annoncé que l'accident avait fait 7 morts et 299 blessés.
Voilà, et alors des années plus tard...
Les cas de leucémie sont 4 fois plus nombreux que dans le reste de la Russie. Des milliers de cancers de la thyroïde opérés à la chaîne à l'hôpital de Minsk.
Mais bon, sinon...
Tchernobyl, 0 mort.
Ah bah ça s'est joué à rien du tout, hein. Ça s'est joué à ça, quoi.
J'ai dit une bêtise?
Non, t'inquiète, Arnaud, tout va bien. Et puis sinon, cette semaine, celui qui a fait beaucoup causer... Eh bien, c'est Édouard Philippe. Doudou se présentera-t-il contre Emmanuel Macron en 2022? Sera-t-il loyal? Eh bien, on n'en sait rien. Mais le sémillant et jovial Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, était hyper content de sa vanne sur le sujet dimanche sur France 3.
Vous savez, en tout Édouard, ne sommeille pas un baladur. Ne soyez pas inquiète.
Pour la punchline. Tellement content que 2 jours plus tard, ici même sur RTL...
Mais enfin, faut pas penser qu'en tout Édouard sommeille un baladur.
Non,
hein
oh, quand il en tire une bonne, Richard. Il la lâche pas. Bon, après, les vannes de Richard Ferrand, elles font allusion au siècle dernier. Alors, pour les plus jeunes de nos auditeurs, explication de la blague Ferrand, hein, pour la sortir à ses grands-parents ce soir, par exemple. Balladur, copain de Chirac. Balladur, Premier ministre, qui dit à propos de la présidentielle de 95...
Je confirme très volontiers, je ne le saurais pas. Je ne vois pas comment un homme pourrait se présenter devant les Français en 93, leur dire « je ne serai pas candidat dans 2 ans » et l'être. Ce serait manquer à sa parole.
Et donc, évidemment, un an plus tard...
J'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la République.
Oui, mais ça, évidemment, c'était la politique d'avant. Jamais on verrait un truc pareil aujourd'hui. Mais enfin, dans le doute, vivement la semaine prochaine, quand même. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein.
Formidable le sort de la semaine.
En
malgré
forme.
Un petit son inversé, c'était formidable.
Faites-vous deviner celui-là. C'était un truc de ce matin.
Eh oui, c'est comme ça. C'est Cyprien Sini.
On défait le monde sur RTL.
La grosse info de ce soir, donc, nous emmène sous terre.
Bah oui, parce qu'on n'arrête pas de parler de l'espace, d'envoyer des hommes et des robots à des milliers de kilomètres au-dessus de nos têtes. Thomas Pesquet part d'ailleurs la semaine prochaine hein, pour l'ISS. Mais nous, avec l'équipe d'On défait le monde, eh ben, on a essayé de faire l'inverse. On a voulu savoir ce qui se passait sous nos pieds. Et Laurent, bah, c'est vous qui avez creusé. Hein.
Oui, oh, très belle. Ouais. Magnifique
celle-là.
Un peu à la Richard Ferrand. Comparaison. La station spatiale internationale est à 400 km de nous. Nous avons été sur la Lune plus de 380 000 km. Certains, vous l'avez dit, ont pour ambition d'aller sur Mars. Alors là, la distance varie. On est à plus de 60 millions de kilomètres. Mais sur notre planète Terre, quand il s'agit de voir ce qu'il y a sous nos pieds, eh ben, ce n'est pas la même histoire. Écoutez Stéphanie Durand. Elle est sismologue et chercheure CNRS au laboratoire de géologie de Lyon.
Le forage le plus profond qui a été fait, c'est un forage qui s'appelle Kola, qui était en Russie. Ils ont mis 19 ans pour atteindre 12 km de profondeur.
12 km en 19 ans, vous avez bien entendu, parce qu'il faut mettre des tubes voilà, les uns après les autres, c'est très lent. Ce grand projet avait été lancé par les Russes en 1970, il s'est donc terminé en 1989. Mais le constat est sans appel, nous n'allons pas très loin.
Mais alors attendez Laurent, pourquoi on n'arrive pas à aller au-delà de 12 km? Parce que dit comme ça, ça paraît ridicule par rapport aux milliers de kilomètres dans l'espace. Là.
Mais c'est un véritable challenge technique, hein. Je vous laisse imaginer les conditions pour creuser sous Terre et ne vous attendez pas à une promenade de santé.
La température augmente assez vite avec la profondeur, donc notamment pour ce forage-là. Un des problèmes, ça a été qu'à 12 km de profondeur, il fait déjà 180 degrés. Donc il faut trouver des matériaux qui restent assez durs pour percer la roche à cette température. Donc, il y a un problème de pression aussi, et puis après, il vous faut aussi une mèche, comme quand vous percez avec votre perceuse, qui fait 12 km de long. Donc ça pose vraiment de gros challenges.
Ouais, et plus on descend, plus il fait chaud, mais quand même, aller au-delà n'est pas irréalisable. Hein. Jean-Louis Chilansky, c'est l'ancien président de l'Union française des industries pétrolières.
Toute la question est d'abord une question économique, parce que en fonction du prix du pétrole, on peut développer ou non de nouvelles technologies, on peut faire de l'innovation ou non. Et donc, même si aujourd'hui on pense qu'il y a une certaine barrière, en fait, si les prix du pétrole venaient à réaugmenter, eh bien, on verrait qu'on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui.
En attendant d'aller plus loin, Laurent, c'est au moins ce qu'il y a sous nos pieds?
Oui, nous avons des éléments de réponse. On va se rappeler nos cours de SVT, de sciences de la vie et de la Terre. En gros, le centre de notre planète se situe à environ 6371 km. Et pour savoir ce qu'il y a en dessous de nos pieds, je vous propose une petite visite guidée avec Jérôme Verne. Il est sismologue à l'école et observatoire des sciences de la Terre de Strasbourg.
Schématiquement, on va dire que si on arrivait à couper la Terre en deux et à la regarder d'un petit peu loin, on aurait l'impression que ça ressemble un peu peu à un œuf mollet, c'est-à-dire avec avec une coquille très fine, cassante autour, c'est ce qu'on appelle la croûte terrestre. En dessous, le manteau terrestre qui correspondrait au blanc cuit de l'œuf, hein, qui est une zone aussi solide mais moins rigide, on va dire. Et puis au centre, le jaune d'œuf qui correspond au noyau terrestre.
Là, vous êtes à 5000 km sous Terre. Ce noyau terrestre, hein, le centre de la planète, est constitué en deux parties. À l'extérieur, il est liquide, c'est quasiment du fer pur, hein, un peu de nickel. Et à l'intérieur, il y a ce que l'on appelle la graine, la partie solide du noyau. Quand vous êtes dans ce secteur, attention, il fait quand même plus de 5000 degrés.
Ouais, mais alors je comprends pas, là, essayez pas de nous embrouiller.
ça m'étonne pas.
Non, mais on n'arrive pas à descendre en dessous de 12 km. Alors comment vous savez tout ce qu'il y a jusqu'au noyau, là?
Très bonne question, Cyprien. Alors, on dispose aujourd'hui de plusieurs méthodes pour sonder l'intérieur de la Terre sans avoir forcément à creuser. C'est comme pour l'imagerie médicale, on évite de faire des trous dans tout son corps pour analyser. Mmh. Non, là, on utilise les scanners, l'échographie, c'est les mêmes technologies pour la planète. On se sert, si vous voulez, grâce à des capteurs, des ondes sismiques qui se propagent à l'intérieur de la planète pour faire des images en trois dimensions et même on essaie d'aller vers du 4D. Mmh. Et d'ailleurs, on enregistre des séismes à très grande profondeur, jusqu'à 700 km. Mais là, c'est un grand mystère.
Laurent, il y a des projets pour découvrir encore mieux notre planète, utiliser les ressources présentes sous nos pieds.
Bah, l'idée, c'est d'aller, pour schématiser, creuser dans des zones plus simples. Le sismologue Jérôme Vert nous l'explique.
On avait commencé à faire ces trous dans des croûtes qu'on appelle de continents, hein, continentales, mais là où la croûte est très épaisse, et donc c'est très difficile d'aller jusqu'à la base de cette croûte, hein, qui fait à peu près 30-40 km. On essaye aujourd'hui de développer des projets pour aller forer là où la croûte est un peu plus mince, notamment au niveau des océans, pour essayer d'aller regarder directement dans le manteau terrestre.
Ouais, des projets, une nouvelle fois, technologiquement très complexes, très coûteux, mais sous nos pieds, bah, il y a à peu près toutes les ressources énergétiques, minérales qu'on utilise aujourd'hui. On pense tout de suite au pétrole, au gaz, le lithium qu'on utilise pour les téléphones portables. Et puis, il y a la géothermie. On peut creuser à très faible profondeur, injecter de l'eau, la réchauffer pour des bâtiments. Mais maintenant, la géothermie profonde. On va creuser à plusieurs kilomètres parce que l'eau est plus chaude. Une pratique qui se fait beaucoup dans des zones volcaniques comme l'Islande. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, notre planète n'a pas encore dévoilé tous ses secrets.
Mmh. Passionnante enquête.
Ah oui, c'est formidable. Ouais,
formidable. Dans Défait le monde. Bravo, Laurent Tessier. 19h26. Restez là. Première info pour briller au dîner juste après ceci. À tout de suite.
RTL Soir. On défait le monde.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
La première de ce soir, 19h28, on défait le monde, c'est jusqu'à 20h sur RTL. Vous commentez la page Facebook, le compte Twitter, c'est à disposition. Première info pour briller au dîner, c'est avec Marie. Et nous sommes au prétoire ce soir.
Et oui, on a beaucoup parlé cette semaine des cours d'assises. Hein. Alors vous savez sans doute que les jurés d'assises sont des citoyens, comme vous et moi, tirés au sort sur les listes électorales. Et que les avocats peuvent décider de récuser, d'écarter du procès un juré comme ils le veulent. Ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, ils le font totalement à la tête du client, au feeling. Ils disposent de très peu d'informations, le sexe, l'âge, la profession du juré, et c'est tout. Donc le jour de l'audience, ils regardent, ils dévisagent et récusent en partie à l'intuition. Alors il y a quand même des grandes tendances. Hein, pour les cas de viol, on va plutôt écarter des jeunes femmes qui pourraient peut-être s'identifier à la victime. Hein, c'est un exemple. Et puis, sachez qu'il y a une superstition chez les avocats, c'est de récuser le premier juré tiré au sort, tradition censée porter chance à leurs clients.
Première info pour briller au dîner ce soir, signée Marie Mollet.
Allume la lumière.
Allume la lumière dans On défait le monde quand un spécialiste nous aide, Cyprien, à mieux comprendre l'actualité.
Et cette semaine, le gouvernement a donc annoncé les dates des futures élections régionales et départementales. On votera pour les deux en même temps, hein, ça sera les 20 et 27 juin. Sauf qu'a priori, je sais pas pour vous, mais ces élections, bah, elles font pas lever les foules, hein, pour l'instant.
Et c'est pour ça qu'en préparant cette émission, on s'est dit que ce serait peut-être bien de revenir aux fondamentaux, à savoir à quoi ça sert les régions, à quoi ça sert les départements. C'est les fondamentaux qui vous font rire.
Ouais, non, mais c'est ça. Ouais.
D'accord. À quoi ça sert les régions, à quoi ça sert les départements, et est-ce qu'en France, finalement, le système administratif est bien adapté?
Et pour ce petit cours donc de droit administratif, cette remise à niveau, eh ben on a fait appel à un prof, hein. Enfin pas n'importe lequel quand même, hein. Pascal Perrineau, politologue, professeur des universités à Sciences Po. Et d'abord, bah, à quoi sert la région? Prenez des notes, je relève les copies à la fin.
Les régions et les grandes régions qui ont été créées sont de véritables acteurs économiques pour aider les entreprises, pour faire redémarrer le tissu économique régional, pour adapter l'offre d'emploi à la demande. Elles jouent également un rôle en termes de transport non urbain. Vous savez, ce qu'on appelle les TER. Il ne faut pas croire que ce sont des trains entièrement financés par la SNCF. Très souvent, c'est la région qui est un acteur décisif pour financer ces transports. C'est un acteur essentiel également pour les lycées dans lesquels sont nos enfants. Et puis, et ça c'est de plus en plus important, la formation professionnelle. On sait très bien que pour adapter l'offre d'emploi à la demande, la formation professionnelle est et sera de plus en plus décisive. Et la région, là, est au premier plan.
Donc, grosso modo, quand on vote pour la région, ça concerne l'aide aux entreprises, les TER et les lycées.
20 sur 20, Stéphane, bravo.
Faillot.
Mais du coup, qu'est-ce qui reste au département? Parce que je rappelle qu'on va aussi voter pour les départementales les 20 et 27 juin prochains.
Eh bien, vous allez l'entendre, le département, en fait, il est complémentaire de la région.
Le département, c'est plus un acteur social. C'est très important à l'heure actuelle dans le cadre de la solidarité intergénérationnelle vis-à-vis des personnes âgées. C'est lui qui s'occupe beaucoup de l'aide aux personnes âgées, qui va gérer par exemple des EHPAD. C'est l'acteur décisif pour le RSA, le revenu de solidarité active, voyez. Et puis il gère aussi des infrastructures tout à fait importantes, les ports, il gère les routes départementales, vous savez on prend sans arrêt les routes départementales. Eh bien, si ces routes sont en bon état, ça veut dire que le conseil départemental fait bien son travail. Si ces routes sont bourrées de trous, c'est que le conseil départemental ne fait pas bien son travail. Et puis il gère également en matière éducative les collèges. C'est un acteur, vous voyez, plus social qu'économique.
Oui, finalement, ça se complète. Mais chez nos voisins européens, est-ce que c'est aussi morcelé?
Eh bien, pas vraiment, à écouter Pascal Perrineau.
C'est vrai que la France est compliquée. Alors, quand on regarde nos grands voisins, les départements en tant que tels, on ne les trouve pas. Hein, mais on a des régions qui, au fond, ont beaucoup plus de pouvoir que les nôtres. Quand vous tournez vers l'Italie, vers l'Espagne, vers l'Allemagne, vers l'Autriche, vers la Grande-Bretagne même, les acteurs régionaux, parfois, sont de véritables États. Donc on a une répartition beaucoup plus équilibrée, quelque part, entre le pouvoir national et le pouvoir de ces collectivités locales. Et c'est un paradoxe, parce que quand vous regardez les enquêtes, les Français, ils aiment beaucoup leur collectivité territoriale. Alors qu'ils sont dans une relation de défiance, mais incroyable, vis-à-vis des pouvoirs nationaux. Ils adorent leur département. Ils ont le numéro de leur département sur leur voiture depuis toujours et ils y sont très attachés. Et ces collectivités que les Français aiment sont relativement maltraitées par le pouvoir national. Je crois qu'un l'avenir est aux collectivités territoriales, à une décentralisation vraiment audacieuse.
Voilà, très très clair, hein. On a appris plein de choses. Allume la lumière sur ces futures élections régionales et départementales. Il est 19h33.
À suivre dans On défait le monde.
Votre deuxième info pour briller au dîner. Vous découvrirez le loser de la semaine et le jeu, the game évidemment.
On défait le monde dans RTL Soir.
Allez, à tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Pile à 19h35 en ce vendredi. Merci à vous tous d'être là. Vous commentez, vous réagissez, compte Twitter, page Facebook de l'émission. Deuxième info pour briller au dîner. On était avec Marie au prétoire tout à l'heure. Brice, on va en prison.
Oui, absolument.
Il y a pas de thématique.
Il n'y a pas de thématique, c'est le hasard. Avant-hier, vous savez, Bernard Madoff est décédé dans sa cellule aux États-Unis. Il avait été condamné pour escroquerie à 150 ans de prison. Peine longue, mais très très loin du record. Parce qu'en 1972, en Espagne, sous le dictateur Franco, Gabriel March Granados, c'est un facteur de Palma de Mallorca, qui préférait ouvrir les lettres et éventuellement voler ce qu'il y avait à l'intérieur plutôt que de les distribuer, avait lui été condamné à 9 ans de prison. Mais 9 ans de prison pour chaque lettre volée, et il en avait volé 42 768. Il avait donc été condamné par la cour à 384 912 années de détention. 384 912 années. Finalement, il en purgera 14.
Elle est pas mal, cette info. Il faut noter tous les chiffres sur un petit post-it pour la caser.
Alors, je vais répéter. Donc,
c'est déjà pas mal. 19h36.
RTL.
Le loser de la semaine.
Le loser, le grand perdant de la semaine. Et alors là, attention, je crois bien que c'est une première dans On défait le monde. Hein. D'habitude, le titre de loser est assez peu enviable, hein, vous en conviendrez. Ouais, ouais. Mais cette semaine, Marie, vous avez enfin trouvé le loser qui s'assume et qui se revendique même.
On l'adore.
Eh oui, exactement. Benoît Paire, l'un des plus grands joueurs du tennis français, 33e mondial, réputé sur tout le circuit pour son sang-froid.
J'arrive de rentrer chez moi. J'en peux plus, Enrique ! J'en peux plus !
un garçon tranquille, donc, qui se trouve, on peut le dire, dans une mauvaise passe. Il s'est fait sortir d'entrée du tournoi de Monte Carlo. Alors, dans ces cas-là, vous pouvez partir en jouant les bons perdants, dire que vous reviendrez plus fort et à l'année prochaine. C'est exactement ce qu'a choisi de faire Benoît Paire.
Franchement, j'en ai rien à branler, franchement, ce match. Je dis rien, vraiment, ça m'apporte plus rien, le tennis, de heureux. On joue, c'est vide, c'est une ambiance d'une tristesse rarement vue. J'habite à 2 heures de route chez mes parents, donc je vais rien à foutre et je vais rentrer chez moi.
Ah oui, petit coup de mou, hein, Benoît Paire, de voir les tribunes vides depuis des mois. Alors en cet instant, on a une pensée pour les journalistes qui ont tout tenté pour le requinquer.
Ceci dit, tu te bats 3 heures. Hein, ça,
oh, mais je me bats, mais je m'en fous. Enfin, tu vois, j'en ai rien à cirer.
Donc qu'est-ce qu'il faudrait pour retrouver l'étincelle, le
ouais,
public,
j'ai plus d'étincelle, de toute façon.
Mais je peux pas rester comme ça.
J'ai aucune magie à retrouver, j'ai rien à retrouver. Franchement, ça donne envie de te jeter, quoi.
Ah oui, carrément, là, on touche le fond.
Allô, SOS Détresse ? Je suis au bout du rouleau, là.
Allô ?
Benoît Paire, rideau terminé, plus d'étincelles, encéphalogramme plat. Alors, foutu pour foutu, il s'est totalement lâché.
J'ai pris 12 000 balles, hein. Ouais. 12 000 euros pour être à l'hôtel tranquille. Mais quel plaisir il y a à jouer. Alors oui, pour les ramords du tennis, c'est sûr que c'est génial de venir jouer ici.
D'accord, donc on a ce nouveau concept, les ramords du tennis. On dirait un peu le nom d'un groupe de rock expérimental. En tout cas, je suis allée regarder l'humeur chez les autres joueurs du tournoi de Monte Carlo. Et je peux vous dire qu'ils ont la niaque.
Ouais, j'ai été mauvais. Hein. J'ai été mauvais et puis il faut que je retourne au boulot dès demain. Il faut que je travaille plus dans ce sens-là.
Ils ont la gagne, nos joueurs, la banane.
Donc là, je me sens très fatigué et là, chaud, et c'est pas facile.
Alors, je vous raconte pas ceux qui viennent de gagner leur match. C'est le délire, l'explosion de joie.
J'ai bien conclu le set, donc je suis content. Donc, c'est très satisfaisant, c'est sûr.
Effectivement. Voilà. Contrôlez-vous, monsieur Goffin. Là, on sent l'euphorie qui vous parcourt. Alors, il faut dire que ça faisait un moment qu'on le sentait chez les joueurs, comme Gaël, mon fils à Roland-Garros, gai comme un pinson.
Faut-il me laisser entraîner ? Et ça reviendra. C'est ce truc.
Et en fait, l'état d'esprit général, c'est encore Benoît Paire qui le résume le mieux.
Il se passe rien. Alors vous allez tous dire oui, c'est comme la vie normale. Ben, très bien. Ben, moi, la vie normale, je trouve qu'elle est à chier en ce moment. Tout est pour l'instant à chier. Le seul moment de bonheur, c'est quand je suis chez moi, que je ne mets pas mon masque, que j'en ai rien à foutre du Covid. Et là, je me sens heureux.
Bon, ben, je crois qu'on s'est tout dit. La vie est à chier. Filez-nous des pantoufles. On veut se vautrer dans le canapé. Vite, un film naze à la télé. Et vive Benoît Paire. Merci de nous dire qu'on n'est pas les seuls à déprimer.
Ouais. Voilà. Mais c'est le loser qui dit un peu ce que tout le monde pense tout bas. Quoi.
Noir.
Mais c'est vrai.
19h39, c'est pas l'heure du cadeau, ça ?
Mais oui, ami de la bamboche.
Bah, du jeu d'abord, pardon.
Ah oui, il y a le jeu. Donc, ami de la bamboche, attention, ce soir, c'est pour vous.
C'est l'heure de Monsieur Cadeau.
Monsieur Cadeau, Grégory Caranoni, mais vous poussez les watts ce soir.
Mais oui, vous avez sorti votre... Votre CD des ramords du tennis, ce fameux groupe de rock incroyable. Eh bien, ce soir, on va vous accompagner dans le monde d'après et on vous offre une party box de la marque Muse. On vous l'a déjà offerte, cette party box, elle a eu énormément de succès. Alors ce soir, on recommence. Cette party box, vous savez, c'est l'enceinte qui a le format d'une petite valise avec sa poignée qui permet de transporter facilement cette enceinte, justement, pour tous vos concerts sans vous faire mal. Sans vous faire mal au dos.
Ah, on peut l'amener chez des amis.
On peut l'apporter chez des amis, dans la rue, où vous voulez. Elle possède un lecteur CD, une connexion Bluetooth pour diffuser vos musiques préférées directement depuis votre téléphone. Et puis, elle a 2 entrées micro et une instrument pour faire profiter vos amis ou vos voisins, peut-être parce qu'elle est très puissante, de vos compositions, créations, sketch ou que sais-je. Et pour vous aider à ça, on vous offre en plus un micro, si vous voulez vous entraîner à faire Monsieur Cadeau peut-être. Et en plus, et enfin, elle s'illumine au rythme de la musique. Ben, je sais. Vous pouvez faire voyager votre art grâce à cette enceinte. Allez vous inspirer sur muse-europe.com.
Bon, elle est pas mal. Donc la fameuse question dont on fait le monde pour la gagner. Bah oui. Alors la semaine prochaine, Thomas Pesquet part pour l'ISS. Mais dans quelle marque de fusée il part ? C'est une première. Est-ce que c'est A, SpaceX ? Est-ce que c'est B, Space Cowboy, ou est-ce que c'est C, Space Mountain? SpaceX, Space Cowboy ou Space Mountain? Vous avez la bonne réponse? Antonelis!
3210 sur votre téléphone à partir de maintenant. Le standard est accessible 19h41.
RTL Soir, on défait le monde.
C'est l'heure du billet retour quand on revient sur une info qui a fait la une et qui a depuis disparu.
Et aujourd'hui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait rendez-vous avec Emmanuel Macron. Alors cette présence ukrainienne à Paris, ben, ça nous a fait penser à ça. Souvenez-vous, c'était en 2014.
5 morts ces dernières 24 heures. Les événements s'accélèrent donc en Ukraine.
Dans le Donbass, avec l'armée ukrainienne.
Des semaines de combat. La guerre fait rage.
Oui, en 2014, le pays était en guerre avec la Russie. Finalement, ça s'est réglé comment ce conflit, Brice, puisqu'on n'en parle plus du tout aujourd'hui ?
Eh ben, ça s'est pas réglé du tout. Ouais. En fait, la guerre continue dans l'est de l'Ukraine, donc dans le Donbass, avec des positions assez figées. C'est une guerre de tranchées. L'année dernière, en 2020, 50 militaires ukrainiens ont été tués dans ces combats. Alors, ce n'est pas rien, mais ce ne sont pas des affrontements aussi intenses qu'au début. En juillet 2020, un cessez-le-feu a été signé entre les Russes et les Ukrainiens. Ça a permis d'avoir une année plus calme. En revanche, depuis le début 2021, le début de l'année, les tensions sont plus fortes. Les combats plus fréquents, plus intenses dans l'est de l'Ukraine et surtout depuis quelques semaines, les Russes accusent l'Ukraine et l'OTAN de se montrer menaçants. Et donc Moscou, pour montrer que cela ne lui paie pas, a déployé des dizaines de milliers de militaires à la frontière avec l'Ukraine, une démonstration de force qui inquiète Kiev.
Mais la démonstration, ça peut représenter une menace ou c'est juste pour montrer qu'ils sont là, quoi ?
Alors en 2014, je vais vous rappeler quand même que les Russes ont annexé illégalement la Crimée, désormais qui est sous le pouvoir de Moscou, ainsi qu'une partie de l'est de l'Ukraine, donc, dont on parle. Donc évidemment avec les Russes, il faut quand même militairement penser qu'il y a déjà des précédents. L'Elysée parle d'ailleurs d'un danger pour la souveraineté de l'Ukraine.
Et c'est pour ça qu'il est venu aujourd'hui Zelensky à Paris ?
Ben oui, parce que face à cette menace du géant russe à sa frontière, le président ukrainien, il se cherche des alliés. Mmh. Et donc il se tourne vers l'Europe et vers l'OTAN. Et ça, ça énerve beaucoup les Russes. Alors Angela Merkel a aussi participé en visio cet après-midi à la réunion avec Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. L'idée, c'est d'essayer de faire baisser la pression avec les Russes, de reprendre le dialogue et de maintenir ce cessez-le-feu qui est très difficile à entretenir. La chancelière a demandé à Vladimir Poutine de retirer ses troupes. Et puis il y a les USA aussi qui sont dans la partie. Joe Biden a conseillé au président russe, je cite, de s'abstenir de toute action militaire contre l'Ukraine. Et il a proposé à Vladimir Poutine, c'est une première, un sommet en Europe dans les mois qui viennent pour tenter de faire le point sur les dossiers importants, les sujets de discorde. Il y en a pas mal entre les États-Unis et la Russie et il y a notamment l'Ukraine. Tout à l'heure, un peu cynique, le Kremlin s'est félicité que les États-Unis, comme la Russie souhaite une désescalade dans cette région. Moscou ajoute quand même qu'il faut faire cesser les provocations ukrainiennes à la frontière. Et ça, c'est une analyse évidemment que ne partagent pas la France et l'Allemagne qui, elles, soutiennent l'Ukraine.
Vous nous parliez du président ukrainien tout à l'heure, Zelensky. C'est bien lui qui était humoriste ?
Oui, il a connu dans son pays un grand succès grâce à une série intitulée Le serviteur du peuple. C'était une série dans laquelle il incarnait un citoyen lambda, prof d'histoire, qui devenait président de l'Ukraine et là se retrouvait confronté aux difficultés du pouvoir. Un scénario qui s'est donc passé dans la vraie vie.
Et alors Brice, dans la réalité, il s'en sort ?
Alors, souvenez-vous, il avait fait campagne sur le rétablissement de la paix dans l'est du pays, le retour du dialogue avec Moscou, le redressement économique et surtout la lutte contre la corruption.
Donc là, il a 0 sur 4.
Alors, pas 0 sur 4, il a quand même mis des choses en place. Il y a des décisions qui ont été prises, surtout au début du mandat. Mais en fait, il a vite été confronté à un système judiciaire et un système politique ukrainien historiquement corrompu, c'est-à-dire des hommes qui n'avaient pas forcément intérêt à voir les choses changer. Et donc, même si de nombreuses mesures ont été prises, ça n'a pas permis de bouleverser le paysage politique ukrainien. Face à ces difficultés et à l'inertie du système, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a remanié son gouvernement. Et là, Zelensky a fait appel à d'anciens hommes politiques ukrainiens, c'est-à-dire des hommes qui avaient servi sous les présidents précédents. Et ça, pour son électorat, ça a été destructeur. Pire, il semble désormais qu'il a perdu le contrôle d'une partie de sa majorité au Parlement qui serait tombée sous la corruption d'oligarques pro-russes. Bref, avec la paix qui ne revient pas dans l'est du pays, il avait été élu avec plus de 70% des voix il y a près de 2 ans maintenant. Aujourd'hui, on lui prête 30% d'opinion favorable dans l'opinion publique ukrainienne. Alors, tout n'est pas de sa faute, on le disait, mais un peu comme dans la série qu'il a rendue célèbre, se faire élire, c'est une chose, gouverner, manifestement, c'en est une autre.
Voilà, c'est dit, c'est signé Brice Dugénil, le reporter du service étranger de RTL dans On défait le monde. Il est 8h moins le quart.
À suivre dans On défait le monde.
La dernière info pour briller de la soirée est le champion du monde de l'œuf maillot. Enfin, peut-être. On va voir s'il va gagner. Et on aura le gagnant du jeu aussi, j'allais l'oublier. A tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
La troisième de ce soir, le tout à 19h47, et c'est avec Cyprien.
Vous n'êtes pas encore éligible au vaccin, ou vous n'arrivez pas à trouver un rendez-vous? C'est pas grave. On défait le monde à ce qu'il vous faut. Mais oui, on a un plan. Bon, alors c'est un poil cher. Hein. Direction les Maldives. Oui, parce que les Maldives envisagent désormais de vacciner tous les touristes prêts à se rendre sur l'archipel cet été. C'est la stratégie dite du 3V, voyage, vaccin, vacances. Formule all inclusive,
c'est bien vendu, hein.
Annoncée par le ministre du Tourisme en personne. Alors, faut dire qu'avec la crise sanitaire, l'archipel subit une crise sans précédent, puisque 70% de l'économie repose sur le tourisme, et là, il n'y a plus personne. Alors, vous aurez le choix du vaccin. Ils ont du AstraZeneca ou du chinois, c'est à vous de voir. Le problème, c'est qu'il faut rester là-bas entre les deux doses, donc avoir de très très longues vacances et un très très gros budget. Du coup, Stéphane, comme vous répondez aux deux critères, je vous inscris.
Ou pas. Troisième info pour briller au dîner, signé Cyprien Sini. Il est 19h48.
Marche ou rêve?
Absolument, marche ou rêve, c'est quand on met en valeur vos idées, vos initiatives.
Et là, attention, sujet qui nous tient à cœur, enfin particulièrement, puisque Laurent, vous nous présentez le peut-être champion du monde de l'œuf maillot.
Bah oui, si vous allez vous mettre à table dans quelques minutes, je vous rajoute une idée d'entrée avec un chef toulousain, Yann Gazal, 37 ans, chef de la brasserie Le Bibent, un établissement historique présent depuis 1843 sur la place du Capitole. Et il va se lancer donc dans plusieurs mois, à la fin de l'année, dans le championnat du monde de l'œuf mayonnaise. Bonsoir Yann.
Bonsoir.
Alors,
bonsoir.
Bonsoir. Vous avez été sélectionné grâce à l'une de vos réalisations. Alors, c'est le moment de nous faire un petit peu saliver. On la voit d'ailleurs sur les écrans dans le studio. Décrivez-nous votre œuf maillot.
Alors, tout d'abord, c'est un œuf d'oie. On a décidé de partir là-dessus pour le côté un petit peu excentrique. Et après, on a travaillé autour de la simplicité du plat, donc de l'œuf maillot, qui est juste un œuf cuit à la perfection. Et avec une mayonnaise qu'on est venu relever grâce à un vinaigre balsamique IGP, vieux platino, qui est vieilli en fût de chêne. Et on a disposé tout ça sur un pain toasté aux céréales, qui est toasté à la graisse d'oie.
Ah ouais.
pour rester dans le thème,
ah oui,
la mayonnaise aussi est à base d'œuf d'oie. Et on a rafraîchi un tout petit peu quand même, parce que c'est un tout petit peu gras, hein, quand même. Donc on l'a rafraîchi avec quelques herbes du cresson rustique.
Ah bah c'est bon,
et
alors.
Quelques fleurs d'alimis.
C'est voilà. Bien de mettre du vert.
Et pourquoi c'est excentrique l'œuf d'oie? Enfin, c'est quoi la particularité de l'œuf d'oie par rapport à l'œuf classique?
En réalité, mis à part la taille, il n'y en a pas. Mm-hmm. On a voulu faire œuf d'autruche, mais on s'est dit que c'est peut-être un peu trop gros.
Et non, alors, dites-moi, le championnat du monde de l'œuf maillot, il n'y a que des Français ou il y a d'autres concurrents? Comment ça se passe?
Alors, d'après mes informations, il y aurait c'est championnat du monde, donc il y aurait des étrangers. Alors j'ai entendu parler de l'Italie, de la Norvège, je crois. Pour le moment, moi, c'est tout ce que j'ai en information. Après, la Somme est en train de faire une sélection, je pense, dans plusieurs pays.
La Somme, c'est l'association de sauvegarde de l'œuf maillot.
Il y a beaucoup de concurrents qui se disputent le titre de champion du monde de l'œuf maillot.
Alors, pour être honnête, je ne sais pas. Nous, on a été sélectionnés suite à un takeaway challenge, à une opération qu'on réalise toutes les semaines avec un blogueur de la région, Rodenroll. Qui avait mis à l'honneur l'œuf maillot, et donc qui a été contacté par l'association de sauvegarde de l'œuf maillot pour faire une sélection par la suite. Donc le président de l'association s'est déplacé à Toulouse et a dégusté tous les œufs de tous les restaurants participants.
Et alors, méfiez-vous, parce que moi j'ai fait mes recherches, il paraît que les Hollandais sont très bons dans l'œuf maillot. Alors je sais pas pourquoi, c'est la sauce hollandaise, j'en sais rien, c'est pas si c'est un dérivé.
Et, c'est bien bossé en tout cas.
Et surtout, il va falloir être bon, parce qu'il y a les championnats du monde de pâté en croûte aussi, et ils ont été remportés par un japonais. Non, mais sérieusement.
Et d'accord, mais quel rapport avec l'œuf maillot?
Eh ben, que du coup, si l'œuf maillot ça part encore chez les étrangers, l'œuf maillot c'est français.
C'est impossible, n'importe quoi, oui.
On va faire le nécessaire pour que ce soit Toulouse qui le remporte.
Et Yann, vous allez réaliser le même œuf maillot avec un œuf d'oie pour la compétition, ou vous allez tenter autre chose pour vous différencier?
Non, on va rester sur la même chose. Alors on avait une petite frayeur, c'est que les oies ne pondent pas tout le temps. Oh. Donc on s'est renseigné auprès de notre producteur qui nous a dit qu'elle pondait moins à cette période-là de l'année, mais qu'il y en aurait un petit peu quand même. Alors il faut savoir que je suis parti là-dessus parce que en fait on a la chance à Toulouse d'être tout proche de la campagne, et moi j'habite en périphérie, et mon voisin a une production d'oies, et c'est lui qui m'a fait découvrir l'œuf d'oie. Voilà, c'est parti un petit peu de ça aussi.
Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur l'essentiel, c'est-à-dire la mayonnaise? Comment vous
le sage qui revient à l'essentiel. Bon,
revient à l'essentiel, les fondamentaux. La mayonnaise, comment la réussir à 100%?
Il y a pas vraiment de secret. Alors, on dit souvent qu'il faut que tous les ingrédients soient à la même température. Je pense que ça, c'est vraiment la base. Ah. Ensuite, il y a des gens qui mettent que le jaune, d'autres qui mettent l'œuf entier. Pour ma part, je mets l'œuf entier. Ça aide à monter. Et on n'est pas obligé de la monter au fouet. On peut la monter avec un mixeur. Donc tout ce qu'il faut, c'est qu'au départ, il faut mélanger tous les ingrédients, y compris le vinaigre. Ça aide à liquifier un petit peu le début. Et puis ensuite, on monte tout doucement avec l'huile. Et avoir un mixeur plongeant enfin, il faut que ça soit un verre doseur ou quelque chose qui soit plutôt petit pour monter la mayonnaise.
Et juste pourquoi vous êtes spécialisé, enfin, c'est peut-être pas votre spécialité, mais pourquoi vous avez mis autant d'amour dans l'œuf mayo? Il y a un truc ou pas?
Alors déjà, nous, depuis 10 ans, depuis l'ouverture du restaurant ici, on a un œuf mimosa qui nous caractérise. Et puis après, non, il y a pas, on a juste mis l'amour qu'on met dans les plats qu'on fait tous les jours. Et on s'éclate, en fait, c'est juste ça. C'est toute l'équipe, à chaque fois qu'on a un challenge, on essaye de mettre toutes nos idées ensemble. Et puis on fonce, quoi.
Je vois juste qu'en 2018 et 2019, c'était des chefs français qui avaient gagné des Parisiens. Donc voilà, oui. Je vous dis pas ça pour vous mettre la pression. 2020, j'ai pas le résultat, mais c'était des Parisiens en 2018-2019.
Ça me fait pas peur.
Bon, en tout cas, on a une pensée pour tous les restaurateurs qui nous manquent.
C'est gentil. Ouais.
Et on vous souhaite bon courage et surtout on vous suivra parce que le concours c'est quand, Laurent?
Vers le mois de novembre ou décembre. Voilà, la date reste encore à déterminer. Une petite info aussi pour briller, l'association de sauvegarde de l'œuf mayo conseille une cuisson de 8 minutes et 40 secondes.
Merci Yann d'avoir participé à ce marche au rêve. On vous souhaite le meilleur pour les prochaines semaines et prochains mois. Évidemment, on met en avant les initiatives, les idées toutes les semaines dans On défait le monde le vendredi.
On a un gagnant également qui va faire la bamboche et qui va peut-être gagner une énorme enceinte.
S'il répond à la question,
c'est Michel de Saint-Germain-en-Laye. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Vous allez bien Michel?
Ça va très bien, et vous-même?
Bah, impeccable. Alors, puisque vous êtes avec nous, alors la question, quelle est la marque de la fusée? Est-ce que c'est une SpaceX? Est-ce que c'est une Space Cowboy? Ou est-ce que c'est une Space Mountain?
SpaceX.
Ouais, Michel, Saint-Germain-en-Laye. Vous allez recevoir cette formidable enceinte. Hein,
je plains vos voisins à Saint-Germain-en-Laye.
Ah oui, vous êtes content.
Saint-Germain-en-Laye, il y a le centre d'entraînement du PSG notamment. Vous allez pouvoir les perturber.
Tout à fait.
Voilà, je connais très peu Saint-Germain-en-Laye.
Ouais, non, mais voilà. Si c'est tout ce que vous connaissez de Saint-Germain-en-Laye, c'est vrai que.
Non, qu'est-ce que vous. Et l'œuf maillot, ça vous plaît comme plat ou pas? Ça vous a donné faim d'aller écouter le chef?
Tout à fait. C'est un plat que je mangerai volontiers.
Eh ben merci Michel d'être Michel. Passé par chez nous, bravo. On vous envoie le cadeau très rapidement chez vous à Saint-Germain-en-Laye. Les amis, on va pouvoir retrouver l'émission avec le podcast, évidemment, les réseaux sociaux, les comptes Twitter,
hyper
tout
vite.
Ça.
Très vite.
On remercie Cassandre qui travaille sur nos réseaux sociaux désormais et qui découpe l'émission, vous pouvez la retrouver sur Twitter.
Absolument, le vendredi prochain, il n'y a pas d'émission, sachez-le. Oui. Il y aura Vincent Parizeau qui vous accompagnera.
Et nous, on prend des vacances.
Et on se retrouve dans 15 jours.
Tout à fait.
C'est ça.
Bonheur absolu. On peut se réécouter un peu la super musique du début d'émission,
ou pas? Ah bah oui, bien sûr.
Il nous reste 17 minutes.
C'est bon.
On a préparé une chanson.
Du coup,
cette semaine, on s'est pas déçus. Mais on ne
sait pas quoi dire dedans. Alors là, nos auditeurs ne peuvent pas les voir en régie, mais ils dansent.
Ils sont très contents d'eux.
Ils sont très contents d'eux. Ils ont enregistré des petits trucs et ils sont très contents. C'est bon là.
Ils s'en foutent, tout simplement. Dans un instant, l'actualité, dans la foulée, le ballon rond, le football. Bonne soirée.
Salut à tous. Sinon, ça risque d'être long. Et il n'y aura pas d'émission. Du coup, vous allez être déçus.